La génération iPhone 16 arrive à mi-parcours. Présentée en septembre dernier, cela fait maintenant 6 mois que cette gamme de téléphones est disponible. Si l'iPhone 16 a gagné en RAM et deux nouveaux boutons, il s'agit cette année d'une révision plutôt mineure pour les modèles Pro. Apple a principalement ajouté la touche commande de l'appareil photo à son smartphone, en plus d'une nouvelle puce apportant du mieux ici et là. Le gros argument sur cette gamme est la prise en charge d'Apple Intelligence, une suite de fonctions d'IA présentant grande pompe lors de la dernière WWDC. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant les publicités d'Apple, l'IA reste finalement assez discrète au quotidien. Elle est depuis quelques temps accessible en France via la bêta d'iOS 18.4, mais rien n'est disponible officiellement pour le grand public. Maintenant qu'Apple Intelligence a eu quelques mois pour maturer et que les rumeurs commencent à évoquer l'iPhone 17, il est l'heure de tirer le bilan de cette génération. Avec le recul, que vaut l'iPhone 16 Pro et que penser d'Apple Intelligence, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Nicolas, l'expert iOS de la rédaction qui a un iPhone 16 Pro depuis son lancement. Salut Nicolas.
Salut Félix, bonjour tout le monde.
Et je suis également avec Anthony qui s'était occupé du test de l'iPhone 16 Pro Max et qui a pris le temps de jouer avec les fonctions Apple Intelligence. Salut Anthony.
Salut Félix, salut à tous.
Alors comme je le disais en introduction, Apple Intelligence ne devrait plus trop tarder à débouler sur les iPhones français. Le déploiement était assez long pour les clients américains étant donné qu'ils ont vu les fonctions arriver au compte-gouttes. Nicolas, au final, c'est pas plus mal pour nous parce qu'on va tout avoir d'un coup, non ?
C'est ça, on va avoir un paquet de nouveautés, un paquet de nouvelles fonctions, même si on les aura pas toutes. Alors déjà, on peut rappeler, effectivement, ils ont présenté Apple Intelligence, comme tu l'as dit, en juin dernier à la WWDC. Ouais. Ça va, on s'approche du anniversaire quand même. Quand les iPhone 16 sont sortis en septembre, il n'y avait pas du tout de ces nouveautés, elles n'étaient pas du tout présentes. Mmh. Il a fallu attendre iOS 18.1, donc ça c'était peu de temps après. C'était réservé aux utilisateurs américains et il y a eu une partie des fonctions présentées, donc tous les outils liés à l'écriture, ce qui est réécriture de texte, ou tout ce qui est même écriture de texte d'ailleurs. On pouvait aussi générer un souvenir dans photo, on pouvait avoir des résumés notamment dans Safari, il y avait des réponses toutes faites dans messages, ou encore des mails jugés prioritaires. C'était assez minime au départ. Mmh. Ils en ont pas mal ajouté avec iOS 18.2, donc ça c'est sorti en fin d'année. C'était toujours pour les Américains seulement, mais là il y avait des gros morceaux, donc essentiellement l'intégration de ChatGPT, directement alors par Siri, ça c'était le gros truc, ouais. Et aussi par les outils d'écriture. L'intelligence visuelle, comme on l'appelle maintenant en français, donc Visual Intelligence, qui est l'équivalent de Google Lens, mais version Apple. Et puis enfin, la création d'images avec les Genmoji et l'Image Playground. iOS 18.3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était une mise à jour plutôt mineure avec le résumé des notifications. Et donc, avec iOS 18.4, qu'on aura courant avril, qui est aujourd'hui en bêta, donc on aura tout ça en français pour la première fois. Notamment en français, ça va être proposé dans plein de pays en Europe et dans plusieurs langues. Ceux qui ont installé la bêta, comme c'est mon cas, peuvent tester dès maintenant ces nouveautés. Celle qui s'est ajoutée, donc, c'est les notifications prioritaires. Donc le tri des notifications pour Apple Intelligence est censé deviner celles qui sont plus importantes. Mmh. Et donc ça, tout ça, c'est pas mal. Mais on en reparlera, il manque un très gros morceau encore, peut-être le plus gros, c'est Siri. Alors, on a droit quand même à une nouvelle interface, hein, avec ce ruban coloré tout autour de l'écran, là. On peut aussi taper plus facilement les requêtes. Il y a quelques nouveautés, mais bon, globalement, pour l'instant, Siri, ça reste Siri, avec ses qualités. Il doit bien y en avoir, mais voilà.
Ouais. Anthony, t'en penses quoi du lancement d'Apple Intelligence aux États-Unis comme ailleurs, d'ailleurs ? Ça a été une réussite ou Apple s'est un peu pris les pieds dans le tapis ?
Apple, c'est une des rares entreprises qui n'emploie que ou quasiment que des product marketing managers. C'est ces gens étranges qui doivent s'assurer qu'un produit n'existe pas sans une stratégie de mise sur le marché. Donc, c'est pas juste on fait un produit, c'est on fait un produit uniquement si on arrive à le vendre. Donc on identifie un problème, on lui trouve une solution, et ce qui fait la force d'Apple quelque part, c'est que le produit, il fait son propre marketing. Ouais. Sauf que, dans le cas de l'intelligence artificielle générative, on a le prototype même de la solution qui cherche son problème. Enfin, sauf si le problème, c'est de faire circuler des centaines de milliards de dollars qui maintiennent l'illusion de la santé de l'économie américaine, mais ça, c'est autre chose. Donc, tu as Apple qui se lance là-dedans, avec un certain succès sur les fondamentaux technologiques, hein, d'ailleurs, faut le dire. Mais le product marketing de ça n'a rien d'évident, puisque le problème n'est pas forcément très bien identifié. Tu prends la campagne de lancement de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro en septembre. Ça ne parle que d'Apple Intelligence. Je suis encore allé là sur YouTube vérifier les pubs. La vignette de la pub, c'est Apple Intelligence presque en plus gros qu'iPhone 16. Ouais. Et comme Nicolas vient de le dire, Apple Intelligence n'était alors pas disponible. Le seul argument un peu en faveur de l'iPhone 16 Pro, qui était le bouton de contrôle de contrôle de commande de l'appareil photo, il a complètement été dilué dans la présentation de l'appareil parce qu'on lui a greffé dessus la recherche visuelle au dernier moment. Et donc ce bouton qui aurait pu n'être qu'un déclencheur de l'appareil photo est aussi un truc qui a été relié à Apple Intelligence. Mmh. 8 ou 9 mois plus tard, on a, comme Nicolas vient de le dire, Apple Intelligence qui est à peu près là. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'Apple ne fait plus de publicité que pour une seule fonctionnalité, les Genmoji. Les promesses autour de Siri, qui est probablement la fonctionnalité la plus actionnable, peut-être la plus importante du point de vue peut-être en moyen, parce que c'est quelque chose qu'il a déjà utilisé, donc c'est quelque chose dont il va voir les progrès. Ces promesses-là, elles ont complètement disparu. Toutes les fonctionnalités dont Nicolas fait la liste autour du texte, elles sortent de 6-8 mois de controverses. Je pense notamment au résumé des notifications qui ont été jusqu'à halluciner des suicides, des arrestations ou des meurtres. C'est une catastrophe industrielle, en réalité. Et ils doivent être assez soulagés, je pense, que cette catastrophe industrielle elle soit couverte par une catastrophe politique. C'est-à-dire qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a des choses un peu plus importantes que est-ce qu'Apple Intelligence, ça marche ou pas.
Ouais. Nicolas, est-ce qu'Apple Intelligence a changé la manière dont tu te sers de ton 16 Pro ? Est-ce qu'à part le résumé des notifications qui est activé par défaut et qui est le plus voyant, tu te sers du reste par exemple pour générer des chats avec Image Playground, j'imagine.
Honnêtement, non.
Non.
On va pas être très optimiste, j'ai l'impression, dans ce podcast, mais. Oh. Alors, j'ai testé toutes les nouveautés à chaque fois avec les bêtas. Ouais. Alors, c'était un peu compliqué, il fallait passer son iPhone en anglais, le mettre sur les États-Unis, bref, c'était tout un truc, mais on pouvait le faire, donc on l'a fait à chaque fois. Mmh. On a même fait des articles dessus, des aperçus, etc. Une fois que c'était fait, une fois que l'article était publié, je suis toujours revenu en français et en France avec la configuration de base, donc j'avais plus Apple Intelligence et franchement, ça m'a jamais gêné. Alors maintenant, avec la bêta d'iOS 18.4, j'ai plus besoin de rien faire et je l'ai. Comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est activé par défaut. Tout est activé, enfin pas tout, mais il y a plein de choses qui sont activées par défaut, dont les résumés. Donc que tu le veuilles ou non, au début, t'as Apple Intelligence qui arrive. Alors je l'ai pas désactivé, parce que c'est possible de le désactiver, mais honnêtement, si je devais pas écrire sur les nouveautés, je suis pas sûr que je les aurais utilisées plus que ça. Prenons par exemple les résumés des notifications. Alors, comme Anthony l'a dit, il y a eu des hallucinations assez horribles. Donc, ils ont coupé pour l'instant dans les catégories actualité. Donc, en gros, c'est pas toutes les apps qui proposent des résumés. T'en as encore. Moi, par exemple, j'en ai de temps en temps avec l'application e-génération, donc la nôtre. Hein. Mmh. C'est assez rigolo parce qu'en général, il prend plusieurs notifications et il les condense en un résumé qui n'a aucun sens, évidemment, puisque c'est des actualités différentes. Et il essaie de trouver un truc. Donc, il met. Il y a une phrase avec 3 éléments qui viennent de 3 actus différentes. Voilà, c'est un peu amusant, je vois pas l'intérêt. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Quand tu as 3 réponses à 3 sujets différents sur 3 thèmes différents, tu peux avoir un résumé qui essaie de combiner les 3. Ou alors le truc complètement pas très intéressant que j'ai vu, c'est un résumé d'un message unique qui est presque aussi long que le message lui-même. Ouais. Au bout d'un moment, à quoi bon mets-moi le message, c'est tout. Et l'autre truc avec les notifications, c'est les notifications prioritaires, ça j'essaye. Je vois pas non plus l'intérêt, sachant qu'on avait déjà des notifications qui étaient jugées urgentes. Mmh. C'est un vieux truc, ça, d'iOS. Donc, notamment tout ce qui est rappel, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est avec des dates. Il ajoute à ça certains messages, mais faut vraiment que dans le message, ils disent que ce soit urgent. Mmh. On avait testé avec Anthony en simulant un message de catastrophiste. Il y arrivait, mais en gros, il fait pas grand-chose. Alors, à part tout ça, donc, si on refait la liste, les outils d'écriture, moi, c'est pas mon truc. J'aime bien écrire, j'ai pas besoin de ça. Bon, voilà. La gomme magique dans photo, ça, j'aime bien, dans l'idée. Mais les résultats, j'avais fait pas mal de tests avec. Les résultats sont quand même très vite mauvais et pas exploitables. Faut vraiment se limiter à des petites retouches. Et finalement, la gomme pas magique du tout de Photomator ou Pixelmator que j'utilisais déjà fonctionne aussi bien. Et je préfère son interface, donc... Voilà, finalement, je n'utilise pas tellement non plus. Ça peut m'arriver, mais c'est assez rare. Ouais. Après, j'avais réessayé, parce que j'avais même oublié que ça existait, les résumés dans Safari. Donc, je n'ai pas vu d'erreur, mais c'est vrai que c'est très court. C'est 2-3 paragraphes, enfin, même pas, c'est un paragraphe, 2-3 phrases, voilà. Donc, tu as un résumé si tu veux, mais il n'y a pas vraiment d'information. Enfin, l'information de l'article n'est pas gardée, quoi, finalement. Enfin, je vois pas non plus le but. Alors, pour mes photos de chat, donc, j'ai effectivement rejoué avec Image Playground. Parce que alors, on l'avait testé, donc c'est sorti avec iOS 18.2. À l'époque, le résultat était vraiment très moche, très, très affreux. Et moi, je me disais, bon, bah, c'est la bêta, c'est la première version du modèle, etc. Donc là, on a iOS 18.4, il s'est passé quelques mois, et j'ai vraiment l'impression que les modèles, c'est les mêmes. Peut-être qu'ils ont bougé, j'en sais rien, mais visuellement, en tout cas, c'est toujours aussi affreux. Mmh. Plus on regarde les images, plus c'est moche. Il y a plein de choses qui vont pas. Justement, avec les chats, par exemple, très régulièrement, il y a plusieurs queues derrière. Les yeux, il a beaucoup de mal. Je parle pas que des yeux de chat, d'ailleurs, même pour les humains. Les dents aussi, enfin, vraiment, c'est quand même assez moche, toujours, et je comprends pas pourquoi ça évolue pas. C'est ça que je trouve un peu inquiétant par rapport au déploiement d'Apple Intelligence. Alors, à la fin, ce qui reste... Le truc le plus amusant, c'est peut-être les Genmoji. Je comprends pourquoi Apple en fait de la pub. On comprend assez vite l'intérêt. Voilà, on demande un nouvel emoji, ce qu'on n'a pas, et on a quelque chose. Bon, après c'est amusant, mais pas très longtemps et quand même pas pour pas beaucoup de choses. Moi, tout ce que j'ai testé, ce qui marche plutôt bien, c'est les variations ou les combinaisons d'emojis existants. Donc tu demandes un truc qui combine deux emojis, ça marche pas trop mal. Voilà, dans l'ensemble. Par contre, tu m'avais montré à Félix le résultat pour tu voulais un kebab, oui. Ça n'avait rien à voir. Et on a parlé aussi, c'est Robin qui demandait une raclette, et là c'était même carrément à nouveau dans le cauchemardesque, avec un truc qui, manifestement, le modèle n'a jamais vu ce que c'était une raclette, il a une idée de ce que c'est en fait, parce qu'on voit quand même il y a du fromage, une pomme de terre, de la charcuterie. Enfin, c'est pas du tout ça.
Est-ce vraiment une pomme de terre? Est-ce vraiment de la charcuterie?
Exactement. Tu comprends l'idée, mais. Non, et puis au-delà de ça, les Genmoji, c'est quand même hyper limité parce qu'en fait, c'est uniquement dans quelques apps, uniquement quand tu es à l'intérieur de l'écosystème Apple. À la fin, oui, c'est rigolo 2 minutes, mais voilà, c'est tout.
Ce qui est rigolo, je lui ai demandé des concepts un peu abstraits, genre des réflexes. Parce que je voulais faire un réflexe appareil photo, il voulait pas, et en fait, il pense au réflexe, le mouvement.
Ah.
Et du coup, il te fait des emojis un peu horrifiques des fois où t'as des trucs, tu te dis, ah ouais, tiens, c'est bizarre ça.
Oui, puis tu peux mettre le visage de quelqu'un sur des emojis existants, ce qui est aussi un peu. Enfin, on voit l'idée.
La gênance absolue.
Oui. Oui, voilà, ouais.
Et ça tourne bien sur ton 16 Pro, parce que sur mon 15 Pro, par exemple, quand il faut générer des emojis, je sens que le téléphone chauffe, c'est pas instantané, ça met un peu de temps.
Non, pour ça, pas de soucis particuliers. T'as les suggestions qui apparaissent les unes après les autres assez vite.
Ok.
Je pense que c'est...
Et le téléphone chauffe pas normalement?
Alors, j'ai peut-être pas fait suffisamment de Genmoji pour te répondre vraiment, mais le peu que j'en ai utilisé, j'ai pas noté, non.
Non, ce qui est surprenant, c'est que c'est... Le premier Genmoji apparaît relativement rapidement. Je trouve que les suivants sont un peu longs à apparaître sur le 16 Pro.
Ouais.
Ça dépend des fois, en fait, je
ouais,
pense.
C'est vrai. Ouais. Ouais. Et surtout, je suis... Enfin, après, c'est peut-être les exemples que j'ai demandé, mais je suis étonné du manque de variation. C'est-à-dire que parfois, ça va complètement sauter, ça va te proposer... par exemple, il y a quelques jours, je voulais faire une liasse d'euros qui vole.
Ouais.
Et donc, j'ai eu l'équivalent de l'emoji avec les dollars avec des ailes. Donc là, j'avais vraiment une liasse de billets de 500 balles avec des ailes. Et il me l'a fait 2 ou 3 fois. Et ensuite, il est passé à autre chose qui était une liasse de billets de 500 balles avec un parachute.
D'accord.
Donc là, tu fais OK, il a changé de concept.
Ouais.
D'ailleurs, ça ne veut pas dire la même chose. Mais souvent, il va te proposer 10 fois le même, grosso modo, le même emoji. C'est assez, assez étrange.
Oui, ouais. Et Anthony, toi, tu t'es servi un peu d'Apple Intelligence?
Écoute, je ne surprendrai absolument personne en disant que je ne suis pas client des fonctionnalités qui sont liées au texte. Je compte continuer de raconter moi-même mes propres bêtises. Les reformulations et les résumés, je les trouve d'une tristesse absolue. Les résumés des mails, notamment, j'ai souvent des résumés qui disent l'inverse du mail, ce qui est quand même problématique. J'ai pas activé suffisamment de notifications pour que les résumés aient le moins d'intérêt, ou en tout cas que j'ai vu des problèmes. Contrairement à Nicolas, je n'ai pas l'intention d'utiliser la gomme magique parce que je n'ai pas l'intention de me créer des faux souvenirs. Je trouve ça d'un danger absolu.
J'enlève des poussières en général avec. Hein, mais oui.
Oui, mais disons que la gomme magique permet d'aller tellement plus loin que la gomme. C'est-à-dire qu'enlever une poussière sur le capteur, comme avec la gomme, ça ne me pose pas de problème. Enlever une personne ou enlever un poteau, enlever un arbre, enfin. Notre tête se crée déjà suffisamment de faux souvenirs pour qu'on n'en crée pas nous-mêmes de manière volontaire, quoi. Mais bon, à la limite, bon, ces trucs, la gomme magique, tu peux dire qu'elle fonctionne à la limite, avec les limites soulevées par Nicolas, mais pourquoi pas. Je trouve la recherche visuelle, malgré le débat sur son nom, mais moi je vais continuer à appeler ça la recherche visuelle, plutôt intéressante, même si elle est encore instable, elle plante énormément sur mon iPhone. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une belle démonstration, quelque part, des forces et des faiblesses de l'ensemble du champ des intelligences artificielles. Donc cette recherche visuelle qu'on peut, sur l'iPhone Pro, convoquer en appuyant longuement là, sur le bouton de contrôle de l'appareil photo. Donc on prend en photo un objet, une personne, une scène, et puis on peut lui demander « envoie ça, enfin cherche une image similaire sur Google » ou « envoie ça à ChatGPT ». Quand on se contente de chercher une image similaire sur Google, ce que fait déjà Google Lens depuis des années, tu as une réponse rapide et précise, parce que Google a une base de données d'images qui est pratiquement finie. Quand tu veux envoyer une requête à ChatGPT, tu as une réponse qui est lente, longue, verbeuse, et surtout...
Il donne son avis à chaque fois, ça m'amuse.
Oui, et puis le pire, c'est que c'est souvent faux. On a fait encore un exemple là, il y a pas longtemps avec mes baskets, où c'est quand même pas très compliqué de trouver que c'est tel modèle New Balance. Google me donne ça en littéralement 3 secondes. ChatGPT me fait un long truc sur pourquoi les chaussures New Balance sont confortables et jamais me dit le numéro de la paire de pompes. Ouais. Quand ça marche, c'est pratique. Le problème, c'est que ça marche pas souvent et ça montre bien le problème. C'est-à-dire que faire un truc aussi simple que de la correspondance, simple. Un truc qu'on fait depuis quelques années, qui est de la correspondance d'images, ça marche. On met ChatGPT, c'est fini, ça casse. La possibilité de taper à Siri, qu'on pouvait déjà faire, hein, c'est pas exactement nouveau, mais maintenant c'est beaucoup plus accessible. C'est quand même sympa, d'un point de vue modalité d'interface, et parfois on peut pas parler à Siri, quoi. Le problème, c'est que Siri est toujours aussi stupide. Mon exemple favori, c'est de demander à Siri la racine carrée, je sais pas moi, de 16. Mmh. Je rappelle qu'il y a une calculatrice dans iOS. Et puis Siri dit, bah non, attends, moi je sais pas faire, on va demander à ChatGPT.
Ah oui.
ChatGPT qui ne sait pas faire des maths. Donc voilà. Effectivement, comme vous, hein, j'utilise Genmoji, j'adore. Je vois effectivement pourquoi Apple fait de la pub pour Genmoji. C'est un peu dommage qu'on ait balancé tant de milliards et tant de salive pour au final faire des emojis. Mais c'est ça, c'est sympa, c'est fun, c'est vraiment fun.
Non, moi je suis pas totalement contre le résumé des notifs, parce que ça marche pas, mais ça fait une petite énigme rigolote avant d'ouvrir ton paquet de notifs. Et du coup,
c'est ça, mais ça peut être agaçant aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a dans les mails, c'est vrai que le nombre de mails où du coup t'as un résumé, je me dis mais de quoi il parle, et au bout d'un moment, je pense que je vais désactiver pas mal de trucs.
Non, parce puis que c'est les notifications de maison, par exemple, où j'ai une serveur connectée, enfin, je viens de retester une serveur connectée, tu as la porte est ouverte, la porte est fermée, la porte est ouverte, la porte est fermée, puis soudainement, le résumé de la notification, c'est il y a 45 personnes qui sont rentrées chez vous. Tu fais, bah non Non.
Mais c'est logique.
Oui.
Tu comprends.
Non, c'est pas logique. Non.
Tu comprends pourquoi il arrive là, en tout cas.
Et est-ce que vous en êtes servi un petit peu sur Mac ou iPad? Parce que c'est vrai que certains outils sont plus pertinents sur un ordi, comme par exemple ce qui touche à la réécriture, Nicolas?
Alors pas du tout. J'ai pas installé 18.4 sur le Mac Studio, j'ai plus d'iPad dans mon quotidien, de toute façon j'en ai pas qui soit compatible. Et puis comme je disais tout à l'heure, les outils d'écriture c'est pas trop mon truc.
Oui.
Et franchement je suis pas spécialement pressé d'installer la bêta sur mon Mac. Parce que je vois pas ce qui pourrait m'être utile, ce qui me manque particulièrement. Donc voilà, pas spécialement.
Ok, Anthony, pareil.
Si, figure-toi, parce que quitte à dire du mal d'un truc, je préfère l'avoir essayé avant. Donc sur l'iPad comme sur le Mac d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors c'est un peu plus facile à manier sur le grand écran. Alors pour une partie des choses, alors évidemment on n'a pas la recherche visuelle, mais... je trouve que les images playground, enfin tout ce qui est lié à l'image est moins maniable sur un grand écran. Par contre, tout ce qui est lié au texte est plus maniable sur le Mac ou l'iPad. Le problème, quelque part, c'est qu'on est plus efficace avec un clavier et une souris qu'avec ses doigts. Donc on a l'habitude de travailler très vite sur Mac. Tu sais, un clavier, souris, raccourci clavier, enfin la totale. Et donc, ça donne l'impression que ces fonctionnalités sont encore plus lentes qu'elles ne le sont vraiment. Et du coup, moi, l'impression que ça m'a donné sur Mac, c'est que tu vois la machine derrière la fonction, et c'est pas du tout Apple, ça. Normalement, Apple, c'est magique. Et là, ça l'est pas du tout. Et ça, c'est assez bizarre de se dire, on a Apple Silicon, on a des machines qui ont jamais été aussi puissantes, et pour générer une image, enfin pour générer un truc de 32 pixels par 32 pixels, Genmoji, ça prend un temps fou.
Et il n'y a toujours pas la recopie d'écran, en fait. Ça, c'est toujours pas
il n'y a pas la recopie d'écran, enfin la recopie de l'écran de l'iPhone, ce qui est terrible, parce que c'est peut-être la meilleure fonction de l'année, même si j'ai des gros doutes sur sa maniabilité au quotidien.
Mais ouais, je l'ai, moi, toujours, hein, depuis le début, parce que si tu as un compte App Store américain, tu l'as, mais je ne l'utilise absolument jamais.
Mais un jour, on fera fermer ton compte App Store américain, tu perdras toutes tes applications et ce sera bien fait.
Ça ne manquerait pas. Ah si, ça manquerait, mais pas la recopie ne manquerait pas.
Et tu n'es pas content d'avoir les notifs de ton iPhone directement sur ton Mac sans avoir à regarder ton iPhone qui est en train de charger? Non.
Ça fait longtemps que tout ça est désactivé, donc non.
Ah oui, ok.
Non, non, c'est vachement... Enfin, c'est long d'activer la recopie, machin. C'est plus rapide de sortir ton iPhone, surtout avec Face ID.
La recopie, il y a un truc tout bête, hein, c'est qu'on peut glisser-déposer des fichiers entre l'iPhone et le Mac.
Ah oui, ouais.
Et donc,
mais ça, je le fais en copiant-collant, mais oui.
Oui, mais pour les images, par exemple.
Ça marche aussi, le copier-coller,
nous,
pour
les qui
images.
Faisons énormément de captures d'écran pour nos articles, le copier-coller marche, mais c'est long. AirDrop ne marche pas ou marche quand il a envie.
Ouais.
Là, le glisser-déposer, a priori, fonctionne. En tout cas, avec Sidecar, il fonctionne. Donc, comme la recopie de l'écran utilise un mécanisme assez similaire, ça devrait fonctionner aussi.
En fait, je pense que c'est très bien sur le papier. Mais après, bon, vous verrez quand vous testerez. Mais je trouve que c'est... Bon.
Nicolas, il y a eu du changement pour Siri, parce qu'avec l'arrivée des grands modèles de langage, ça semble être un point évident à améliorer.
N'est-ce pas? Mais non, il n'y a pas eu de changement. C'est un peu le domaine effectivement le plus évident pour ces intelligences artificielles là, basées sur des grands modèles de langage. Ça permet d'avoir du texte facilement, hein, plein de texte, donc pour un assistant vocal c'est pas mal, en théorie en tout cas. Et effectivement tous les concurrents de Siri l'ont fait ou vont le faire, Google avec Gemini, et puis là récemment Amazon a présenté Alexa Plus. Et même les nouveaux acteurs spécialisés dans le domaine ont tous plus ou moins leur solution. OpenAI, par exemple, il y a une version vocale de ChatGPT, donc tu vois bien comment ça pourrait être un concurrent à Siri si ça pouvait exister, parce que Siri est intégré à iOS et il n'y a pas de concurrent possible. Mais voilà. Donc il n'y a rien du tout pour l'instant pour l'assistant vocal, en tout cas rien sur le fond. Je l'avais évoqué tout à l'heure, il y a juste la nouvelle interface, donc on a l'impression que c'est un nouveau Siri, mais c'est juste l'ancien avec un ruban coloré à la place d'une petite boule en bas. Il y a quand même, j'exagère, il y a une ou deux exceptions près par rapport à iOS 17. Alors il est censé avoir gagné en souplesse, notamment tu dois pouvoir le corriger dans le cours de la conversation si tu t'es trompé. Mais alors je ne sais pas si c'est censé marcher en français, en tout cas dans la bêta, là j'ai testé pour préparer le podcast, je lui dis un truc, dis bidule, rachète-moi d'acheter du beurre, ah non, plutôt de la farine à 3 heures, et alors le rappel qu'il a créé littéralement c'est acheter du beurre dans de la farine.
T'inquiète pas, ça marche pas mieux en anglais.
Ça c'est censé exister, t'es censé pouvoir te corriger, mais effectivement j'avais testé aussi en anglais au début, bon avec mon accent je peux croire que ça marche pas, mais là j'ai l'impression qu'effectivement ça ne marche pas du tout. Donc c'est un truc de moins. Il y a deux, trois choses. Il est censé pouvoir activer des réglages plus facilement ou t'expliquer comment fonctionnent certaines fonctionnalités. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas si ça marche encore vraiment bien en français. En tout cas, j'ai pas bien réussi à l'activer. Okay. Tout ça, alors qu'en parallèle, lors de la WWDC, quand même, il faut rappeler, Apple avait présenté un nouveau Siri, quand même. Il est censé exister. Grâce à Apple Intelligence, l'assistant vocal, il est censé devenir beaucoup plus compétent avec deux choses. Enfin, c'est la même idée, mais deux axes. Donc il est censé en gros collaborer avec toutes les applications et surtout tous les contenus des applications. À la fois, donc il va établir un profil personnel complet avec toutes tes données personnelles, qui tu es, qui sont ton conjoint, tes enfants, tes parents, qu'est-ce qu'ils font, en piochant partout où il peut pour trouver ces infos. Tout ça, il est censé le faire en local, il est censé donc le faire avec un strict respect des données privées, contrairement à ce que d'autres font sur les serveurs, voilà, c'est l'angle d'Apple. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il est censé pouvoir interagir avec les apps, donc on peut lui demander des choses complexes. Un des exemples, ce qu'il donnait pendant la WWDC, c'est quand est-ce que ma mère arrive en avion et ajoute un rappel ou quelque chose comme ça lié à cette première demande. Donc voilà, des choses assez compliquées comme ça, dont on ne peut pas rêver faire aujourd'hui. Donc ça a été présenté en juin. Il me semble qu'ils en ont reparlé même en septembre. En tout cas, voilà, c'est censé exister, mais... pas de nouvelles. Les rumeurs disaient que ça devait arriver avec iOS 18.4, donc les bêtas sont là, il n'y a pas la nouveauté. Est-ce que ça va être activé dans le cours du cycle de bêta? Ça a l'air mal parti. On parle plutôt maintenant de 18.5, donc qui serait la version suivante, qui sortirait sans doute autour de juin, donc un an après. Et on ne sait même pas si ça ne va pas finalement être décalé à iOS 19, voire pourquoi pas annulé, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, Apple se fait assez discret sur ce nouveau Siri. Même si on a fait un article, on voit qu'il y a des nouveautés non raccourcies, donc peut-être qu'ils préparent quand même, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est censé arriver. Puis, alors, donc ça, c'est quelque chose qu'Apple a présenté, donc c'est sûr. Dans le moins sûr, mais quand même, Mark Gurman pense qu'il y aura un nouveau Siri, alors là, vraiment nouveau, qui serait lui aussi fondé sur un grand modèle de langage, donc comme ses concurrents, voilà, l'IA générative, on pourrait lui demander n'importe quoi, il pourrait répondre n'importe quoi, bon, il pourrait avoir réponse à tout. En théorie, ce nouveau Siri devrait arriver avec, alors, on parle d'iOS 19, mais un peu comme cette année avec la première vague d'Apple Intelligence, ça serait plutôt du 19.4, ce qui voudrait dire au mieux dans un an, avril 2026. Et puis, ça, c'était encore, donc, c'était les premières rumeurs qu'il donnait, hein, Mark Gurman, mais maintenant, il dit que, voilà, suite au retard sur Apple Intelligence l'actuel, quoi, qui est même pas encore là entièrement, on ne sait pas si ça va pas être plus tard, pourquoi pas iOS 20. Donc si on parle de 20.4, là on est en 2027, enfin, ça paraît un peu fou étant donné que tout le monde est prêt, quoi, tout le monde a ça. Ouais. Voilà, après, pour l'instant, bah, on ne sait pas, on n'en sait pas plus là-dessus, mais ça serait en tout cas la conclusion logique pour Siri.
Anthony, est-ce que la concurrence propose des trucs intéressants au niveau de l'IA ? C'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'Apple a pris son temps, là où Samsung et Google, au contraire, ils ont, dès que les IA ont commencé à être disponibles, ils ont sauté sur la première occasion pour vanter l'IA partout. Est-ce qu'Apple est en retard niveau fonction, ou tout le monde est plus ou moins en train de chercher le bon bout ?
Ce que les gens qui nous écoutent doivent savoir, c'est que quand j'ai lu cette question dans le conducteur, j'ai retiré mon casque et j'ai engueulé Félix. Non, je dirais pas qu'ils sont en retard sur l'intelligence artificielle. Ils étaient même en avance avec le Neural Engine. Mais ils ont cédé moins rapidement que les autres aux sirènes des LLM. Ouais. Ça, c'est clair. Et clairement, d'ailleurs, ce qui est tout aussi clair, c'est qu'ils n'ont pas de meilleures idées que les autres. Parce qu'encore une fois, c'est une solution qui cherche son problème. Du coup, bah, ils ont une gomme magique, comme Adobe. Ils sont pas loin d'avoir un système complet de transcription et de résumé des messages et des appels, comme Google, même si Google le fait mieux, je pense notamment à la transcription des appels, qui pour nous qui faisons des interviews, c'est magique. Ils finiront par proposer une traduction en direct, comme fait Samsung. Et pareil, Samsung le fait mieux, et pour quelqu'un comme moi qui suis polyglotte, c'est magique. Mais quelque part, personne n'a encore trouvé la killer feature, quoi, qui justifierait les hallucinations, qui justifierait les kilotonnes de CO2 qu'on est en train de balancer dans l'atmosphère. Ouais. Personne n'a trouvé la bonne interface, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui... là, les exemples que j'ai donnés, c'est quand même beaucoup des choses autour du texte. Et c'est bon, quoi. On n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans un terminal, on a des interfaces graphiques. Du coup, bah, tout le monde copie tout le monde, parce qu'en fait le destinataire de tout ça, c'est pas nous les clients, quoi. Le destinataire de tout ça, c'est les investisseurs. C'est juste de dire non, regardez, vous inquiétez pas, on n'est pas en retard, on travaille, on est à la pointe de la technologie. Et donc, je peux pas vraiment dire que, enfin, oui, quelque part Google et Samsung ont sauté dessus à la première occasion alors qu'Apple a attendu un peu plus longtemps, mais au final, là maintenant à l'instant T, ils sont pas en retard, quoi. Ouais. J'entendais ce que disait Nicolas sur Siri, enfin, pour avoir utilisé Gemini sur Android. Oui, tu peux lui parler, il peut raconter des conneries. Est-ce que c'est mieux que Siri, quoi ? Je veux dire, quand j'ai envie d'allumer mes ampoules ou quand j'ai envie de savoir 2+2 ou de faire un timer, avoir Gemini dans l'assistant vocal de Google, c'est pas tranchant, quoi. Donc, je dirais pas qu'ils sont en retard.
Nicolas, qu'est-ce qu'Apple a de prévu pour améliorer Apple Intelligence ? Et qu'est-ce que tu aimerais voir comme fonction d'IA ?
Bah, comme on disait tout à l'heure, hein, le gros morceau qui est prévu, enfin prévu, oui, c'est Siri. voilà, bah, on ne sait pas quand ça sortira. Apple bah, prend son temps. Après, je rebondis un peu sur ce qu'Anthony a dit. C'est vrai qu'on voit bien de côté Android avec Gemini que ce n'est pas si simple que ça. Ils ont toujours Google Assistant en parallèle parce que même s'il est très bon pour blablater... L'IA n'est pas très bonne pour gérer les trucs du quotidien, donc tout ce qui est minuteur, effectivement la domotique, etc., c'est vite compliqué.
Non, et puis se poser la question des interfaces. Moi, je trouve drôle que tu aies à la fois Gemini dans tes SMS, où tu peux écrire à Gemini, et puis Gemini à la voix. Enfin, tu sens que personne n'a trouvé le truc, quoi. Hein, on n'y est pas.
Donc, c'est sûr. Bah, après, moi, ce que j'attends comme fonction, je ne suis pas un gros utilisateur d'intelligence artificielle, je pense que... Il n'y a pas de mystère, donc rien de spécial. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'arrive d'utiliser ChatGPT ou un concurrent en temps pour tester. Et il y a un truc qui n'est pas mauvais, c'est quand tu lui demandes des synonymes ou des traductions, surtout si tu rajoutes un contexte, si tu dis je veux dans tel domaine, comment on dirait ça, ou d'autres idées, ça marche pas trop mal. Donc je me dis, bah, si Apple le fait en local, ça serait pas mal. Et puis s'ils le font, voilà, sans, bah, avec un meilleur respect des données privées, bah, pourquoi pas. Même si bon, je pense que j'en aurai un usage aussi limité qu'aujourd'hui. C'est vrai que je regardais mon historique dans ChatGPT, c'est une ou deux fois par semaine, un truc comme ça, donc c'est pas, voilà, c'est pas énorme. À la limite, ce qui m'intéresse le plus, ça serait plutôt pas un Siri, pas forcément Siri, mais en tout cas tout ce qui est la partie avec automatisation, avec raccourci. Bah, j'ai longtemps été un grand fan de raccourcis, c'est plus trop le cas parce que c'est tellement buggé que c'est pénible. Alors je me dis, est-ce que l'IA pourrait sauver l'application et en faire quelque chose de pratique? Je suis pas sûr, mais bon, si ça, c'est le cas, ça m'intéresserait.
Voilà, ça pourrait halluciner des actions, ce serait pas mal.
Mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'automatiser des trucs, de repérer ce que tu fais, par exemple, quotidien sur ton Mac, et te dire, tiens, tu fais souvent ça, est-ce que je pourrais te proposer de faire une automatisation? Ça serait vachement pratique si ça marche, si ça marchait. C'est pareil dans la domotique, d'ailleurs, hein, c'est un truc où il y a beaucoup à creuser là-dessus. Alors, maison pour Apple, mais peu importe, s'ils disaient, bah, tiens, t'allumes tout le temps la lumière à telle heure, tu fais tout le temps ça en même temps que ça, bah, pourquoi on ferait pas une automatisation? Ça, pourquoi pas? C'est Google, d'ailleurs, qui avait commencé à travailler, je sais pas trop où ils en sont. Mais
ouais, ils ont fait pas mal de choses aussi autour de, tiens, t'as tel appareil, ils peuvent faire ça ensemble. Ou t'es passé de tel endroit, tu le fais souvent, et ils utilisent les données de Google Maps pour ça. Enfin, il y a... Pour la domotique, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'il y a un cadre fixe que pour raccourci en général. Mais ouais, il y a un truc à creuser dans ce
Mais il faut que ça marche.
Mais il faut que ça marche. Ouais. Ce qui est dur avec la domotique en plus, parce que tu as envie que quand tu dis je veux allumer une ampoule, tu veux que l'ampoule elle soit allumée, quoi. Pas que tu aies une dissertation sur quand est-ce que l'électricité a été inventée.
Et toi, Anthony, il y a des trucs que tu voudrais voir en IA?
J'attends plus rien de Siri. Mais je vais être obligé de dire Knowledge Navigator, si vous avez ça sur votre bingo coché à case. Je continue à rêver du Knowledge Navigator. Ce truc ne peut pas advenir sans qu'on comprenne parfaitement le langage naturel et sans qu'on synthétise parfaitement la voix humaine. Je crois qu'on n'est plus très loin. Alors, plus très loin, dans ma tête, c'est de mon vivant, quoi, hein. C'est pas le mois prochain. J'espère. Dans mon cœur, au fond, dans mon petit cœur, qu'on y parviendra avant la fin de la décennie. Je dis ça parce que j'aimerais qu'on se débarrasse des aspects les plus triviaux des LLM, la reformulation et les résumés. En vrai, on s'en fout. Et qu'on revienne à des usages plus pertinents, plus profonds, plus transformatifs de la statistique appliquée, quoi. C'est-à-dire, on prend des chiffres. Tu vois ce que disait Nicolas là à l'instant sur « on apprend de tes habitudes », c'est de la statistique, hein. Et ça, je trouve ça quand même vachement plus intéressant et vachement plus utile au quotidien que trois manières de dire cordialement. Tout à l'heure, on parlait de la recherche visuelle. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a vraiment un truc à creuser là-dedans. Un exemple tout bête, je me sers régulièrement de Plant ID pour identifier des plantes à partir d'une image. J'aimerais bien pouvoir m'en passer un jour de cette application. Pourquoi mon téléphone ne serait pas capable de faire ça? Puis imaginons qu'on fasse la même chose, mais avec un système de recherche sonore. Tu as Shazam ou Bird ID, mais pour l'ensemble des sons. Ah, parce que Shazam, aujourd'hui, c'est très bête. Hein, c'est-à-dire que ça utilise des empreintes acoustiques. Donc si tu as un chanteur qui chante une chanson, mais en live, qui n'est pas dans un album, Shazam ne retrouve pas le morceau. Donc ça, pour le coup, ça va demander un peu de boulot. Mais imaginons qu'on prenne donc, la recherche textuelle, la recherche visuelle, la recherche sonore, et qu'on mette tout ça au hasard dans des écouteurs et des lunettes, tu vois comment ça peut être intéressant. Ouais. Quoi. Soudainement, tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années, tes lunettes te disent c'est telle personne, c'est son numéro de téléphone, c'est le dernier message, c'est le dernier mail, c'est la date d'anniversaire. Tiens, le chant que tu entends, c'est tel oiseau. Tiens, l'objet que tu as en main, tu peux l'acheter moins cher sur Amazon. Traduire à la volée ce que tu vois, ce que tu entends, toi qui reviens tout juste de Corée du Sud. On n'en a jamais été aussi proche. On peut faire ça dans les 25 ans, je crois. Ça, c'est faisable. Mais plus on perd du temps avec des trucs aussi cons que on va voir résumer des mails, plus on s'en éloigne. C'est parce qu'on perd du temps, quoi.
Ouais. On va revenir un petit peu sur les iPhone 16 Pro, vu que ça fait maintenant plusieurs mois que vous vous en servez. L'autre grosse nouveauté à part Apple Intelligence, c'était évidemment l'arrivée du bouton commande de l'appareil photo. Est-ce que vous l'utilisez, Nicolas?
Oui, mais uniquement pour lancer l'appareil photo. c'est un lanceur.
Ouais.
Quand j'ai vu la keynote, j'étais très enthousiaste à l'idée d'avoir un bouton dédié. Ça me semblait une super idée. Je trouvais que c'était intéressant. Mais je ne sais pas si j'ai déjà vu une nouveauté Apple aussi mal fichue à part Apple Intelligence. Mais je veux dire, voilà, c'est... Non, mais c'est très bien pour lancer l'appareil photo. Même pour prendre des photos, je suis moins convaincu. Mais alors, tout le reste, là, à base de glissement, de double tape, je trouve que c'est déjà très compliqué. Et ensuite, alors je me suis quand même forcé à l'utiliser hein, pendant plusieurs semaines, voire mois. Ouais. Je me dis non, mais il faut voilà, faire un effort, il faut écrire dessus, il faut savoir de quoi on parle. Donc je me suis forcé. Et en fait, j'arrêtais pas de changer les paramètres sans le vouloir. Ça m'a saoulé, donc j'ai tout désactivé, parce que tu peux enlever tout ça et garder que la fonction de base. Donc maintenant, ça me sert à lancer l'appareil photo, de temps en temps prendre une photo. Et effectivement, il y a l'intelligence visuelle maintenant qui se rajoute avec un tap prolongé. Donc ça, pourquoi pas, parce que ça gêne pas. Mm. Pour ça, c'est pas mal. Ils avaient ajouté, justement, avec 18.3, je crois, une des possibilités qui me semblait les plus intéressantes, c'était pour bloquer la mise au point. Mmh. Donc, tu étais censé pouvoir faire comme sur un réflexe ou un appareil photo dédié, donc appuyer à moitié, ça garde la mise au point, après tu changes le cadre et t'appuies pour enclencher. Sauf que concrètement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mmh. Il suffit de vaguement mettre le doigt sur la zone et hop, tu bloques la mise au point. Et pareil, j'avais plein de photos ratées en fait. Donc, mmh. Je me suis forcé à l'utiliser pendant quelques temps, puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, bah ça me saoule, j'ai désactivé. Voilà, on en revient à l'utiliser. Enfin, pour moi, c'est vraiment un raccourci. Ce qui est bien, cela dit, parce que du coup, j'ai un bouton d'action sur l'iPhone 16 Pro, bah, je l'ai utilisé pour autre chose. Voilà, j'ai pas besoin d'utiliser lui pour l'appareil photo. Ouais. J'en ai un autre, mais voilà. Sinon, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'hyper compliqué, et autant d'habitude, ça vaut le coup, autant là, je trouve que c'est hyper compliqué pour rien, et un bête bouton, ça aurait été aussi bien. Pour moi. Alors après, peut-être que toi, Anthony, j'ai l'impression que tu aimes plus, mais moi, c'est vrai que c'est un lanceur.
Ah bon ?
Non, je sais pas.
Non. Alors, j'ai pris un parti un peu différent du tien, qui était, dès le départ, j'ai voulu me forcer à l'utiliser. Donc moi, j'ai tout de suite déprogrammé le bouton d'action, donc, qui maintenant est mon bouton lampe-torche. C'est mon bouton Varta. Le problème que j'avais, j'en parlais notamment dans mon test, c'est que ce bouton d'action, enfin ce bouton de commande de l'appareil photo, au départ, ne marchait pas quand l'écran était éteint, ce qui est complètement con, parce que quand tu as envie de prendre une photo très rapidement et ce bouton te permet de théoriquement te permettrait de prendre une photo encore plus rapidement, tu voudrais pouvoir déclencher l'appareil photo en faisant le geste de sortir ton téléphone de la poche, oui. Que tu pouvais pas faire. Donc ça, ils l'ont réglé. Donc maintenant, même s'il a... alors bizarrement, c'est pas activé par défaut. Donc faut aller l'activer, mais une fois que c'est activé, tu peux avoir le téléphone dans la poche, tu vois un truc. Et en prenant ton téléphone dans ta poche, t'appuies sur le bouton, l'appareil photo est lancé quand il arrive à hauteur de tes yeux, t'as plus qu'à shooter. Ça, c'est sympa. Tu faisais une comparaison avec la Touch Bar il y a pas longtemps, et je trouve ça intéressant, parce que le problème que j'ai toujours eu avec la Touch Bar, même si je regrette énormément qu'elle ait été supprimée, c'est qu'elle n'ajoutait rien qu'on puisse pas déjà faire autrement et souvent plus rapidement. Et ce bouton, le problème qu'il a, c'est qu'il ne fait rien qu'on puisse faire autrement et souvent plus rapidement.
Et plus précisément.
Ou plus précisément, oui. Ouais. Changer de style, changer de tonalité. Non seulement tu peux le faire plus rapidement sur l'écran, mais tu peux le faire après coup.
Ouais.
Changer le mode portrait, la mise au point du mode portrait. Non seulement tu peux le faire beaucoup plus précisément en posant un doigt tout simplement sur le visage sur lequel tu veux mettre la mise au point, mais tu peux le faire après coup maintenant. Donc t'as pas besoin de le faire, t'as pas besoin de penser à tout ça pendant la prise de vue. Zoomer et changer d'objectif, même chose, ça fait une dizaine d'années que c'est au même endroit et ça va vachement plus vite qu'avec ce bouton, puisqu'il faut pas scroller, hein, il faut juste appuyer directement sur là où on veut. Le seul truc finalement où ce bouton résout un vrai problème d'interface, c'est la compensation de l'exposition. Et je suis prêt à parier un mois de salaire que sur les X milliers de gens qui nous écoutent, il n'y en a pas un, allez, il y en a deux peut-être, qui ont fait de la compensation d'exposition sur leur téléphone à la prise de vue, quoi. J'y pense une fois tous les 36 du mois qu'on peut changer l'exposition. Du coup, en reprenant, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Nicolas sur le problème de glisser, appuyer à moitié, j'en suis venu à vraiment vouloir complètement désactiver le menu, ce qui est malheureusement impossible dans l'application appareil photo. Parce que, comme Nicolas, hein, j'ai raté un paquet de photos parce que il a interprété un clic comme un glisser, et du coup, au lieu de prendre une photo, il est passé en x5.
Ah oui.
Non.
Ou t'as modifié l'exposition sans le vouloir.
Ou modifier l'exposition.
Ça m'est arrivé plein de fois.
Non, mais ça, c'est terrible. Et ça, pour le coup, l'exposition, on ne peut pas le changer après coup. Donc, j'ai mis maintenant les styles photographiques dessus, parce que si ça change le style photographique, oui, c'est pas très grave. Ouais. Et le problème que j'ai, moi, à l'utiliser comme déclencheur, c'est que ce bouton est vachement plus ferme que tous les autres. Mmh. Alors que le déclencheur, c'est le bouton que tu aurais envie que ce soit le moins ferme, le plus cliquy, quoi.
Et puis si tu es déjà sur l'écran à régler les paramètres, bah, ton doigt, il n'est pas loin du bouton déclencheur. Donc en fait, c'est...
Non seulement ton doigt n'est pas loin du bouton déclencheur, mais en plus, donc cette année, je suis repassé au Pro, au petit modèle, mais sur le Pro Max... ce bouton, tu peux pas le toucher du bout de l'index sans passer le doigt devant l'écran. Mmh. Donc sans mettre ton doigt devant une partie du cadre. Donc ouais. En fait, ce bouton, notamment sur le Pro Max, t'empêche de prendre des photos, tout simplement. C'était pas bête comme idée. Ça fait des années que je me plains qu'il faudrait un bouton de déclencheur. Il m'aurait mis un bouton de volume au même endroit et on cliquait dessus et ça faisait des photos, ça aurait été 100 fois mieux. Mmh. Ils sont allés faire des trucs affreusement trop compliqués pour ce que c'est. Quoi. Ouais. Ça valait pas le coup de mettre un écran capacitif à cet endroit-là. Mmh. Quoi. Mmh. C'est...
Ça m'étonnerait pas que ça disparaisse assez vite tout ça. Mais...
Moi, ça me rappelle Force Touch. tu vois ? Ou Pick and Pop, en fait, on peut le faire sans avoir des capteurs de pression dans l'écran. Quoi. Bah là, c'est pareil.
Et il y a quand même eu du neuf en photo cette année ? T'étais pas mécontent dans ton test, à part ça.
Je sais pas combien de milliers de mots j'ai écrit sur la question. Et d'ailleurs, certains commentaires très désobligeants m'ont reproché d'écrire sur la photo. Malgré mes menaces, j'ai toujours pas acheté de nouvel appareil photo. Je crois que c'est le meilleur compliment que je puisse faire à l'appareil sur lequel je lis mes notes là maintenant tout de suite. J'ai toujours mes doutes sur les traitements de tone mapping appliqués par Apple. Ça fait 2 ou 3 ans que je m'en plains parce que ce qui était bien du temps, on va dire, de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, de l'iPhone 10, même de l'iPhone 11, qui était le côté on fait de la HDR et avec un tout petit capteur, on a une gamme dynamique qui est comparable à celle d'un réflexe. Les professionnels ont le droit de m'envoyer un mail pour me dire pourquoi j'ai tort. Est maintenant devenu agressif et on est passé à un stade où Apple refuse de cramer les blancs et refuse de boucher les noirs. Et donc, il n'y a plus jamais de haute lumière, il n'y a plus jamais d'ombre. Mmh. Toutes les photos, c'est des gammes de gris et donc c'est moche. Et en fait, on a réduit la gamme dynamique des images. Heureusement, sur iPhone Pro, on peut shooter en Pro RAW. Et en faisant ça, on s'évite une partie du problème. On ne l'évite pas entièrement, parce que les Pro RAW, ce n'est pas des vrais fichiers RAW, ce n'est pas des vrais fichiers bruts de capteurs. Ils passent par le pipeline d'Apple. Mais disons que c'est moins... Pas brut de capteurs, c'est moins traité, donc on a moins ce problème. Or, cette année, la puce A18 Pro, c'est une bombe. Elle est tellement plus rapide qu'on ne perd quasiment plus en fluidité à shooter en Pro RAW. Et comme cette année, dans les fichiers Pro RAW, on peut mettre des JPEG XL qui sont quand même vachement en lossless, qui sont quand même vachement plus légers que les fichiers JPEG. En plus, on a plus non plus cette pénalité-là. Donc, shooter en Pro RAW, ça n'a jamais été aussi simple. Si on garde à l'esprit que c'est un tout petit capteur de téléphone, je trouve que les résultats sont quand même plutôt satisfaisants. Les fichiers Pro RAW résistent plutôt pas mal au développement. C'est assez facile... d'aller boucher les ombres, d'aller cramer les lumières ou de changer un problème de balance des blancs, enfin des choses comme ça, c'est sympa. Mmh. Cela dit, on voit maintenant les concurrents chinois qui sont capables de caser des capteurs de type 1 pouce dans leur smartphone. J'aimerais quand même bien voir Apple s'en inspirer. Ce que Apple fait depuis l'an dernier, c'est qu'elle a un capteur de 48 mégapixels. Elle fait du binning 2x2, c'est-à-dire que elle prend 2x2, donc 4 photosites pour faire 1 pixel. Donc on a un capteur de 48 mégapixels et à la fin on a une image de 12 mégapixels. Mais ils prennent en même temps une photo de 48 mégapixels, ils font la moyenne des tout et ça fait des photos de 24 mégapixels. Tout ça pour dire qu'en faisant tout ça, en fait maintenant ils manipulent les pixels comme ils ont envie et depuis l'an dernier ils font ce que j'appelle des focales. Donc on peut prendre des photos en... 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm avec le zoom x2 sur le capteur principal. Et donc moi je shoote d'ailleurs pratiquement uniquement en 35. Et ce qui est cool, c'est que si on imagine que demain Apple réussit à caser un capteur d'un pouce, c'est encore plus facile de faire ça. Et non seulement c'est plus facile, mais on le fera avec des photos de meilleure qualité. Or moi mine de rien un truc qui me manque sur l'iPhone Pro c'est l'ancien téléobjectif le x3 qui est autour de 80 mm qui était idéal pour le portrait Finalement, le x5 que j'avais donc l'an dernier dans le 15 Pro Max et cette année dans le 16 Pro, je trouve que c'est trop serré. Il y a plein de moments où je me dis « Ah, x2, c'est pas assez, x5, c'est trop, j'aimerais bien un truc intermédiaire. Ouais. » Et donc, si on avait un plus grand capteur et plus de focale, on peut imaginer qu'Apple, de la même manière qu'elle fait le x2 de manière logicielle, puisse faire un x3 de manière logicielle, ce serait sympa. Il y a clairement quelque chose à creuser de ce côté pour connaître le nom de quelques ingénieurs qui bossent dans leur équipe à Cupertino, c'est clairement leur truc. Donc je serais pas étonné que ça arrive. Et puis on peut imaginer, on a le cas cette année avec l'iPhone SE, avec l'iPhone 16e, qui a qu'un seul appareil photo, mais qui propose justement ce mode x2 parce qu'il a un capteur 48 mégapixels. On va avoir probablement le sujet avec l'iPhone 17R, qui visiblement aura qu'un seul capteur aussi. On peut imaginer du coup avoir dans le futur des iPhones avec un seul capteur, mais un grand capteur. Et on est comme ça, un x1, x2, x3, sur un seul capteur, et donc ça fait passer la pilule. Ce qu'on voit aussi avec les concurrents, c'est qu'ils sont capables de faire des ouvertures variables, des choses comme ça. Enfin, il y a quand même tout un tas de petits trucs que les concurrents essayent, alors qu'ils essayent parce qu'ils ont des moins gros volumes, donc ils peuvent faire des choses qu'Apple ne peut pas faire. Mais où j'aimerais bien voir Apple, notamment sur le Pro Max, reprendre un peu la main, parce que le téléphone est quand même vachement cher. Et voir sur certains des téléphones Huawei ou Xiaomi qui valent 400, 500, 600 balles de moins faire mieux, c'est quand même un peu dépitant. Et cette année, franchement, je suis moins porté sur la vidéo, c'est moins mon truc, mais enfin je suis quand même sur le cul de voir qu'on peut maintenant tourner en 4K HDR à 120 images par seconde et le téléphone il chauffe pas. Tourne tout seul, c'est super sympa. Ils ont ajouté cette année les traitements là, sur le logiciel sur l'audio, notamment la réduction des bruits de fond et puis l'annulation du vent. C'est un peu synthétique, tantant qu'ils manipulent le bruit, mais en connaissant Apple, j'ai aucun doute qu'ils vont s'améliorer. Et franchement, ça m'a donné envie de me pencher un peu plus sur la vidéo. Donc par exemple, j'ai installé l'application Kino, qui est faite par les mêmes développeurs que Hulight. Ça donne vraiment envie de prendre ça au sérieux, parce que c'est quand même un super appareil photo compact. C'est vraiment une chouette caméra, quoi. Donc il y a... Ouais. C'est beaucoup plus facile à recommander ça qu'Apple Intelligence.
Le téléphone a aussi pris un peu d'embonpoint par rapport à la génération 15 Pro. Nicolas, est-ce que ça reste utilisable avec une coque ?
Oui. Alors moi, déjà, je suis passé d'un 13 Pro à un 16 Pro. Et en fait, quand on compare les deux, le changement n'est pas si important que ça. Notamment, la largeur n'a pas changé. Elle avait un peu réduit avec les 14, je crois, ou 15, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils sont un peu revenus. Il est surtout un petit peu plus épais, un petit peu plus haut. Il est moins lourd. Bon, enfin, à la fin, en gros, je n'ai pas noté de différence particulière en passant de l'un à l'autre. Ouais. Physiquement, je veux dire, c'est tout pareil. Y compris avec une coque, donc pour moi ça me gêne pas. C'est vrai que ça reste un gros téléphone, hein, y a pas à s'en cacher. De toute manière, l'époque des petits smartphones est bien révolue, hein, je pense que c'est maintenant, il y a plus de doute. Moi ça me gêne pas, c'est quand même la taille est quand même justifiée par un écran qui est bien plus grand qu'à l'époque des petits iPhones. C'est quand même pas non plus un gain pour juste c'est pas inutile, quoi. Là où ça progresse pas tant que ça, je trouve, avec les tailles, c'est sur l'autonomie. Alors je vais pas m'en plaindre, après moi je suis un peu particulier parce que je suis en télétravail, donc tout le temps avec du Wi-Fi, rarement avec la 4G ou 5G. Mais ça me semble pas vraiment meilleur que mon 13 Pro 9. Je tiens la journée, sans faire gaffe, mais pas beaucoup plus. Au-delà de ça, moi avec ce téléphone, j'ai découvert plusieurs trucs quand même, notamment le bouton d'action, on en parlait tout à l'heure. Donc étant donné qu'il y a la commande de l'appareil photo, j'en ai plus besoin pour un appareil... Enfin, je peux l'utiliser pour autre chose. Sachant que moi, j'ai toujours laissé mon iPhone en silencieux depuis le tout début. J'ai jamais utilisé l'ancien bouton, là, il me servait jamais à rien. Donc je suis ravi d'avoir un bouton d'action qui me sert à lancer Home Assistant, sans trop de surprise. Je sais pas si j'ai déjà dit que j'aimais bien Home Assistant, mais... Je pensais à la base utiliser ce bouton avec un truc très compliqué, avec des raccourcis. On peut faire des choses, c'est Vitici notamment chez Mac Stories là, qui a fait un raccourci où quand tu cliques deux fois de suite il lance un truc différent de style... très compliqué. Mais finalement je trouve que c'est très bien, j'appuie longtemps, hop, j'ai Home Assistant. Je trouve que c'est parfait pour ça,
et en plus ça arrive
et c'est effectivement une des applications que j'utilise le plus, et surtout en fait ce qui est pratique, je trouve, dans ce cas-là, c'est rapidement d'accéder à la commande, étant donné que j'utilise pas Siri pour ça, donc effectivement ça me remplace souvent. J'ai des tableaux de bord pour rapidement éteindre une lumière, rapidement ouvrir une porte, rapidement. Donc c'est assez pratique. Sinon, c'est la Dynamic Island aussi qui est nouvelle par rapport à ce que je connaissais. Donc j'ai découvert, j'avais déjà, je connaissais déjà, mais voilà, je l'ai vraiment découvert au quotidien. Je dois dire que je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit mieux, à plus utile plutôt. C'est-à-dire que un des cas les plus utiles que je trouve, c'est les minuteurs. Donc ça, c'est pas mal, tu sais combien de temps il reste. Mais j'utilise pas tellement de minuteurs sur mon iPhone, finalement, c'est souvent ma montre plutôt. C'est plus pratique pour Siri notamment de lancer le truc et puis d'avoir le. Donc j'utilise pas tellement ça. Et l'autre usage où tu le vois tout le temps, c'est pour la musique ou le podcast en cours. Ça peut être pratique, mais finalement, il faut faire un tap prolongé, il faut y penser pour afficher le panneau, pour mettre en pause, etc. Et j'ai aussi vite fait d'accéder à l'app différemment. Enfin, voilà, soit depuis l'écran verrouillé, soit. Ça m'a pas. Voilà. C'est mieux sans doute que l'encoche, et encore, mais en fait. Je trouve qu'on sent vraiment que c'est une. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour utiliser la contrainte. Mais voilà, on sent que quand tu auras plus du tout, quand Face ID et tout le bazar sera derrière la dalle, ça sera quand même nettement mieux. Ouais. En attendant, c'est pas non plus inutile, mais voilà, ça me semble pas si utile que ça.
Okay.
Contrairement à l'écran toujours allumé, parce que ça aussi c'est nouveau. Ça c'est très pratique quand même. Hein. Bon, on le sait depuis longtemps parce que Android le fait depuis. Je sais plus combien de temps, mais voilà. Avoir toujours l'heure, tu baisses les regards, t'as l'œil qui s'affiche sur ton bureau, c'est pas mal. C'est tout bête, mais ça marche bien.
Ouais.
Et c'est mieux que sous Android parce que je peux encore voir mes chats sous l'heure. C'est vrai qu'on a la photo qui reste vaguement visible, mais c'est pas mal. Combiné en plus avec les activités en direct, alors il n'y en a pas beaucoup, mais à nouveau, typiquement, l'exemple du minuteur, ça marche bien. Tu peux savoir comme ça du coin de l'œil combien de temps il te reste. Ça en cuisine c'est pas trop mal parce que tu peux poser l'iPhone sur le plan de travail et tu peux voir qu'il reste 5 minutes, 10 minutes, voilà, ça te donne une idée. Ça c'est assez pratique, c'est vrai. Mais pour moi le quotidien, le plus gros changement, je vais un peu revenir sur ce que Anthony disait, mais c'est l'appareil photo. C'est vrai qu'entre le 13 Pro et le 16 Pro, il y a vraiment des grosses évolutions. D'une année sur l'autre, on ne se rend pas trop compte parce que c'est vrai que ça change un petit peu par-ci, par-là. Mais quand on. Voilà, là, ça faisait 3 générations et d'un coup, il y a beaucoup de différences. Moi, je n'avais pas le 48 mégapixels, je n'avais pas tout ça. Je suis d'accord que le téléobjectif 5X est souvent un peu trop serré. Par contre, le 2X est très pratique parce que la qualité est bonne. Et surtout, à ma grande surprise, je ne pensais pas du tout aimer ça, mais c'est les styles photographiques. Je suis vraiment fan, en fait. J'ai créé une variante du style naturel que j'utilise par défaut et que j'ajuste souvent après la prise, voilà, selon ce que je veux. Quand c'est des photos de produits pour le boulot, en général, je pousse un peu la luminosité. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne manière de faire, surtout que ce n'est pas destructeur, c'est ça qui est plaisant. Donc on peut toujours dire, ah non, c'était n'importe quoi, je reviens à un autre style.
C'est subtil.
Et, de quoi ? Oui,
c'est subtil, cela, tu vois, les filtres Instagram, c'est trop.
Oui.
Et là, c'est pas mal.
Enfin, ça dépend lesquels, parce qu'il y a quelques styles qui sont pas subtils, mais je l'utilise jamais. Mais
oui, tu peux pousser les curseurs à fond, mais même les trucs proposés par Apple sont, c'est pas mal du tout, quoi.
Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont tendance à gommer les différences de dynamique, mais avec notamment le style naturel, les ombres, par exemple, tu peux les retrouver.
Tu peux en reprendre encore, carrément. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que je le disais dans le test, mais. En fait, il y a un style, grosso modo, c'est le style Google Pixel. Il y a un style photographique, c'est le style Samsung. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois à quel point, finalement, le matériel ne sert plus à rien. Et c'est le logiciel qui fait tout. Et donc là, en fait, si tu viens d'un téléphone Samsung et que tu as l'habitude de la manière dont Samsung traite les photos, tu peux retrouver ça sur l'iPhone.
Le style naturel, c'est un peu le Pixel, justement.
Ouais, et justement, le style naturel, à mon avis, est le meilleur. Parce que là, à la fin, les traitements faits par Google sont pas cons. Google prend un peu plus de risques qu'Apple, quoi, notamment sur les ombres. Et comme dit Nicolas, c'est plus. Ça gomme moins, quoi. Ouais. C'est pas mal.
Eh bien, merci à vous deux pour ce petit coup d'œil sur Apple Intelligence et le bilan de l'iPhone 16 Pro. On rappelle que les fonctions d'IA ne sont pour le moment pas disponibles en France, elles sont qu'en bêta, mais elles arriveront sûrement avec la version finale courant avril. Nicolas, merci d'être passé, à bientôt.
Salut.
Anthony, à la prochaine.
Salut à tous.
Et nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.